Alors, je vous invite à prendre les Bibles bleues devant vous à la page 1042 pour lire Jean au chapitre 6, verset 60. Page 1042, Jean chapitre 6, verset 60. Je vais lire jusqu'au verset 71. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent: cette parole est dure, qui peut l'entendre? Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit: est-ce là pour vous une cause de chute? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait, depuis le commencement, qui était ce qui ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait: c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12: et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12? Pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des 12.
Bonsoir. J'ai reçu un livre l'autre jour qui s'intitule « Les perles des politiques ». On y trouve des citations de différents hommes politiques, en fait malheureuses. Et je vous en lis deux là, que vous allez voir apparaître. Si je suis élu, rien ne changera en France. Ça, c'est une belle citation. Hein. Je ne vais pas mentionner les noms. Un ancien président: il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est ce que j'ai toujours dit. Et on commence à réaliser que peut-être qu'il est dans la catégorie finalement. Il y a des phrases qui sont dites à certains moments, et en fait il y a un effet non souhaité, parfois un effet désastreux dans les campagnes en particulier. Et alors qu'on écoute Jésus parler, on pourrait avoir l'impression, quand on voit toute la foule des disciples qui se retirent, qui se détournent de lui, qu'il a eu des paroles malheureuses. Et en fait, le texte commence avec une allusion sur des paroles dures. Et plutôt que d'adoucir le message ou de récupérer l'audience, Jésus va continuer avec des paroles difficiles à entendre encore. Et là, certains vont effectivement se détourner de lui, rentrer chez eux. Est-ce qu'il réalise ce qui se passe? Parce qu'il va encore plus loin, il va jusqu'à se tourner vers ses disciples, les 12. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Alors, est-ce que Jésus n'est pas conscient des effets de ses paroles? Est-ce qu'il n'est pas conscient des gens à qui il s'adresse? Que ses disciples, le nombre de ses disciples est en train de chuter? Sur la base de ce texte, je vous suggère de poser deux questions. Pourquoi Jésus n'a pas peur de la dispersion des disciples dans les versets 60 à 66? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas peur de la dispersion des 12 dans les versets 67 à 71? On voit deux groupes, un groupe de disciples plus large, plus nombreux, mais moins proches de Jésus, et le second groupe constitué des 12. Et si dans le premier groupe, beaucoup vont partir, dans le deuxième groupe, ils vont rester. Et pour nous, ces questions, ce sera l'occasion de réfléchir à ces moments où on est bousculé dans nos convictions, si vous êtes croyant ce soir, les moments où Jésus, par ses paroles, bouscule, ou peut-être des circonstances qui nous bousculent dans notre foi, où l'incompréhension gagne du terrain, et il y a cette invitation à réfléchir à ce qu'il est pour nous. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas peur de la dispersion de certains disciples? Alors le texte commence avec la réaction suivante. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Alors à quelle parole est-ce qu'il fait référence? Est-ce qu'il fait référence à quelque chose de dur dans le sens de compliqué? Là, j'en cite encore une dernière de ce livre, là, les perles des politiques, mais une politicienne qui parle d'un homme politique d'un autre bord disait la chose suivante, alors essayez de comprendre. Aujourd'hui, il ne lui suffit plus que ceux qui ont des points communs pensent pareil. Il voudrait qu'on pense comme ceux qui ne pensent pas du tout comme nous. Cela veut dire que plus personne ne pense en France. Vous avez suivi, j'espère, au niveau du déroulement de la pensée. Bravo si c'est le cas. Hein. Mais on peut se demander si les paroles dures à entendre dans la bouche de Jésus sont des paroles compliquées, dans ce sens-là, complexes. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, quand on regarde un peu ce que Jésus dit, il y a des choses qui peuvent paraître difficiles dans la forme, mais c'est plutôt dans les implications, je vous suggère, que la difficulté se trouve. Et pour le constater, on va faire un bref résumé du chapitre 6. Le contexte, c'est celui de la Pâque, une fête importante pour les Juifs. Elle rappelle la sortie d'Égypte. Et tout au long du chapitre, on trouve des allusions à cette sortie d'Égypte, à l'Exode. Jésus nourrit plusieurs milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, un peu comme la manne nourrissait le peuple d'Israël dans le désert. Jésus est ensuite l'auteur d'un second miracle, qui lui aussi fait un lien avec le passé. Alors que ses disciples se trouvent sur le lac de Galilée dans une tempête, il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Là aussi un rappel de l'Exode, la traversée de la mer Rouge. C'est le lac de Galilée en entier qu'il va traverser de cette façon. Et alors que la foule voit Jésus comme un nouveau Moïse, et qu'elle espère être nourrie à nouveau, qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce qu'il va reproduire ce miracle, un peu comme la manne qui était pourvue jour après jour? Eh bien non, il ne reproduit pas ce miracle. Et c'est là peut-être un des premiers indices de quelque chose qui est dur pour eux à entendre. Jésus insiste qu'il n'est pas simplement celui qui fournit du pain, il est lui-même le pain qui donne la vie. Verset 35, c'est moi qui suis le pain de vie. Verset 53, plus fort encore, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Si vous êtes juif au 1er siècle et que vous entendez Jésus parler de cette façon, c'est certain, il y aurait des dents qui grinceraient. Est-ce qu'il est en train de parler de cannibalisme? Est-ce qu'il est en train de nous inviter à consommer du sang alors que la loi nous l'interdit? S'il y a bien une difficulté dans la forme, c'est plutôt dans les implications que le problème se pose. En écoutant Jésus, je dois réaliser que si je renonce à venir à lui, si je renonce à croire en lui, si je ne vois pas que c'est par le don de sa vie que je peux vivre, alors cette vie éternelle m'échappe. Sans compter que Jésus se présente comme le Fils de Dieu et se fait ainsi son égal. Pourquoi, et ça c'est dans la peau d'un juif qui écoute Jésus parler, pourquoi est-ce que Jésus serait si incontournable? Pourquoi est-ce qu'on devrait croire en lui plutôt que de placer toute notre confiance dans l'obéissance à la loi? C'est dur à entendre, et les réactions en témoignent. C'est dur à entendre, mais ça ne nous explique pas pourquoi Jésus, lui, de son côté, n'a pas peur de dire ces paroles dures. Et 3 éléments de réponse, je vous suggère, se trouvent dans cette section. Le premier élément de réponse, c'est que Jésus sait bien à qui il a affaire. Dans verset 61, on lit « Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit, est-ce là pour vous une cause de chute ?» Remarquez que la réaction des auditeurs, c'est de maugréer, ou autrement traduit, de murmurer. Est-ce que ça ne vous rappelle pas, si vous connaissez les Écritures, la Bible, ça ne rappelle pas, là aussi, un élément de l'Exode? N'est-ce pas l'attitude du peuple d'Israël dans le désert qui murmure contre Moïse, contre Dieu? Jésus sait, d'une part, qu'il murmure, et Jésus sait aussi ce que ces murmures signifient. De la même façon que le peuple d'Israël ne croyait plus aux promesses de Dieu, les gens à qui il a affaire là ne croient pas en son message, en ce qu'il dit. Et Jésus n'a pas peur de dire tout haut ce qu'ils ont commencé à dire tout bas. Est-ce là pour vous une cause de chute? Et il poursuit en disant, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Autrement dit, si vous avez de la peine à reconnaître ce que je dis ici, si je vous parlais de l'ascension auprès du Père, comment est-ce que vous accepteriez un tel statut pour moi? Le scandale ne serait que plus grand. Jésus sait bien ce qui se passe dans le cœur, dans la tête des auditeurs, et c'est pour ça qu'il n'est pas pris de court par leur dispersion, qu'il n'est pas décontenancé par le fait qu'ils se détournent de lui. C'est le premier élément de réponse. Mais on trouve ensuite un deuxième élément, je vous suggère, dans le verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites, sont esprit et vie. J'ai une question à vous poser. Si vous êtes croyant ce soir, ou si vous pensez à une personne qui est croyante, en fait, non, ça, ce serait une question qu'on posera tout à l'heure, mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est le portrait robot que vous feriez d'une personne qui est sur le point de croire? Donc, imaginez une personne qui, selon vous, est sur le point de croire. Comment est-ce que vous la décririez? Je suggère plusieurs choses. Quelqu'un de curieux, quelqu'un qui pose des questions, qui a un réel intérêt, qui veut aller au bout de ses questions. Quelqu'un qui est prêt à aller à la rencontre de croyants pour aller plus loin, pour cheminer. Quelqu'un qui a pris le temps de lire la Bible, qui veut l'étudier, qui le prend la tâche au sérieux. Ce serait un bon profil, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a toutes ses facettes. Et en fait, quand on lit l'évangile de Jean dans son ensemble, on réalise que ce profil, on l'a déjà rencontré. On l'a déjà rencontré en la personne de Nicodème, au chapitre 3, un homme curieux qui pose des questions. C'est lui qui vient vers Jésus de nuit pour lui poser ses questions. Et c'est un homme érudit, il connaît bien les Écritures. Et comment est-ce que Jésus lui parle dans son entretien? Eh bien, ce que Jésus met en évidence, c'est que sans la nouvelle naissance que produit l'Esprit Saint, entrer dans le royaume, reconnaître le roi, avoir la vie éternelle, tout cela est impossible. Il faut une œuvre de l'Esprit. Et ici aussi, Jésus met l'accent sur l'Esprit qui permet la vie, qui la donne. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas peur de la dispersion de ceux qui ne croient pas en lui. Il sait que c'est l'œuvre de l'Esprit. En lien avec cette raison-là, on trouve le troisième élément, très proche, dans les versets 64 à 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Jésus sait bien que c'est le Père qui fait venir à lui. Il n'est pas décontenancé par les personnes qui se retirent, qui partent, parce qu'il sait que c'est le Père qui attire les disciples à la foi. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est toute la Trinité qui est à l'œuvre dans le salut. Une œuvre incontournable. Alors, avec ces paroles de Jésus à l'Esprit, vous avez peut-être une question qui vous vient. Est-ce que c'est du fatalisme? Est-ce que c'est finalement dire que tout est écrit là-haut, comme dirait Jacques le fataliste, c'est Dieu qui décide de tout et finalement l'être humain n'a pas sa responsabilité, n'est pas engagé? Ça ne colle pas avec tout ce qu'on voit dans ce chapitre. Ces échanges entre Jésus et la foule, c'est le plus long chapitre du Nouveau Testament, truffé de reconnaissance de la responsabilité des auditeurs, son interaction avec eux, elle est marquée par la persuasion, l'invitation à réfléchir, l'interpellation. Et lorsque la réponse est négative chez les auditeurs, Jésus peut naturellement dire qu'ils n'ont pas cru, au verset 36. Leur responsabilité est engagée. Mais dans son discours, dans le même temps, il peut dire honnêtement que c'est uniquement par l'Esprit et parce que le Père attire à lui que les disciples peuvent venir à la foi. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? On a parlé de fatalisme, mais que serait l'opposé du fatalisme? L'opposé du fatalisme. On en vient à la question que je voulais poser tout à l'heure. Si vous deviez dresser la liste des raisons pour lesquelles vous, si vous êtes croyant ce soir, vous êtes venu à la foi, ou si vous pensez à quelqu'un qui est devenu croyant, si vous deviez dresser la liste qui fait que cette personne est venue à la foi, à quoi ressemblerait cette liste? Je vous suggère plusieurs choses. Je pense que c'est parce que j'ai compris le message de Jésus, qu'il était pertinent pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'étais dans un besoin spirituel de pardon, parce que je me suis repenti, parce que j'ai compris que ce que Jésus a fait pour moi à la croix, parce que j'ai eu foi en lui, parce que je savais qu'une nouvelle vie était possible par lui. Et la liste pourrait continuer de cette façon. Mais avec cette liste, n'est-on pas si loin de ce que certains ont exprimé par des cantiques? On pense à John Newton avec son chant Amazing Grace. Merveilleuse grâce, dont le son est si doux, qui sauva un vaurien comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui enseigna à mon cœur la peur, et la grâce me soulagea de ses peurs, comme la grâce m'a paru précieuse à l'heure où j'ai commencé à croire. La grâce, c'est bel et bien quelque chose d'immérité, quelque chose qu'on ne produit pas. Et dresser une liste qui mettrait en avant uniquement notre part, notre responsabilité, ce serait complètement oublier l'œuvre incontournable de Dieu dans le salut. Une œuvre qui doit nous amener à l'humilité et à la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Oui, la responsabilité et la souveraineté vont ensemble. Et il faut les tenir, les deux. On les voit dans ce passage. On arrive à la deuxième question, deuxième partie. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas peur de la dispersion des douze? Pourquoi est-ce que Jésus peut se tourner vers ses douze disciples les plus proches et regarder les yeux dans les yeux et leur dire « Et vous ?» Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Si vous vous mettez dans la peau d'un disciple qui a commencé à suivre Jésus, vous avez laissé tomber votre métier, vous avez laissé tomber vos ressources, vous êtes en train de suivre Jésus partout où il va. Et une question comme ça, ça peut être déboussolant. Alors qu'on a tout quitté, et lui, il nous demande, est-ce qu'on ne veut pas s'en aller aussi? Parmi les disciples, la première réponse vient presque sans surprise de Pierre, verset 68. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » Dans un premier temps, on pourrait avoir l'impression que Pierre dit ces paroles un peu comme s'il était décontenancé, comme s'il avait passé sous un 40 tonnes et « Vers qui irions-nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Mais ça ne semble pas être le cas dans la mesure où on voit la suite de ce qu'il va dire. Je vous suggère plutôt que c'est parce que Jésus n'a pas peur de poser la question, parce qu'il sait que cette question-là va révéler leur foi en lui. Jésus n'a pas peur de poser cette question parce qu'il sait que la foi véritable de ses disciples sera révélée. Ça, c'est la première des deux raisons qu'on peut voir pour cette section. Et on voit là la réponse de Pierre, elle est remarquable. Il commence par affirmer qu'il ne voit personne comme Jésus, vers qui il pourrait se tourner pour avoir la vie éternelle. Personne qui peut offrir cette vie comme Jésus peut l'offrir. Alors il a compris autant que possible où Jésus voulait en venir. Jésus ne demande pas de ses disciples qu'il mange au sens littéral, mais plutôt qu'il prenne ses paroles au sérieux, qu'il se les approprie, qu'il les intègre un peu comme on intègre une nourriture, et que ce message, par la suite, la vie même de Jésus, elle puisse leur donner, lui donner la vie en abondance. Au-delà d'une nourriture qui serait donnée à un moment précis, il voit une nourriture qui accorde la vie éternellement. Pierre continue en disant, « Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Pierre reconnaît là que Jésus est celui qui est mis à part pour être celui qui apporte cette vie éternelle. Il est convaincu, il le sait, et il sait que c'est bien par Jésus que cette vie est possible. Maintenant, si on pense à Pierre et qu'on a toute sa vie devant les yeux, on réalise qu'il y a des moments où il va partir en vrille. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'arrestation, au moment où on va lui demander s'il connaît Jésus, il va le renier à 3 reprises. Au moment de la résurrection, il a de la peine à croire au témoignage des femmes. Est-ce que cette foi, elle était vraiment complète, pleine et entière? On réalise que c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Mais ce que Jésus leur permet ici, c'est de mettre en mots une véritable perle. Pas dans le sens d'un lapsus, d'une bévue, mais ils arrivent à mettre en mots quelque chose d'essentiel. Comment faire la différence entre le fait de dire quelque chose qui est creux, qui n'a aucun sens, et qu'on dirait par une sorte d'autosuggestion, et quelque chose qu'on croit, mais où on a besoin encore de grandir? Comment faire la différence entre une foi qui est vide, qui n'est pas là, et une foi qui a un certain contenu, mais qui a besoin de grandir? Il y a peut-être une illustration qui peut nous aider à voir la différence entre les deux. Lorsque j'étais à Londres, pendant une année, il y a, à la période de Pâques, il y a un article qui est sorti d'un certain A.N. Wilson, un auteur, journaliste aussi, qui parlait un peu de son parcours sur le plan spirituel. Et dans son article, il commence par retourner 20 ans en arrière à ce qu'il appelle une conversion à l'athéisme. Je crois que j'ai déjà mentionné Wilson ici, mais peut-être pas cette partie-là. Il se disait croyant à cette époque, mais il avait tout de même de sérieuses questions quant à la foi. Il participait à une conférence, il y avait un prêtre qui était là aussi, et durant les échanges, il faisait part de ses questions. Le prêtre, en réponse à ses questionnements, a voulu partager son expérience personnelle. Et le prêtre, alors ça peut nous surprendre, mais affirmait que dans un temps d'épreuve, il avait cessé de croire en Dieu. Et il a relaté comment à ce moment-là, il s'était rendu chez l'archevêque pour lui en parler. L'archevêque l'avait écouté et après un long temps de silence, l'archevêque avait répondu « C'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte. » Ce petit témoignage du prêtre pendant la conférence a fait sourire tout le monde en disant « Ça relativise un peu les questionnements qu'on peut avoir. » Mais au fond, Wilson s'est dit « Mais si ça compte. Si ça compte. » Et c'est d'ailleurs cet élément-là qui a été le déclencheur pour qu'il devienne un athée convaincu. Des années durant, il pensait être bien ancré dans le nouveau camp des athées aux côtés de Christopher Hitchens et de Richard Dawkins. Il a commencé par la suite à poser là encore des questions mais au sujet de l'athéisme. Mais pendant un bon temps, il était lui-même athée. Ce qui a commencé à le faire réfléchir dans l'athéisme, c'était la question de l'existence, simple produit du hasard, ça lui paraissait difficile à croire. La question de la souffrance, du mal, comment le définir comme mal sans Dieu. Et finalement, c'est un retour vers Dieu qu'il a vu dans son cheminement, mais un retour très progressif, très lent, hésitant. Il dit, il le reconnaît, semé de doutes, mais avec une foi personnelle de plus en plus ancrée. Et il reconnaît en fin d'article que si son départ a été brusque, immédiat, son retour a été à la fois été lent, hésitant, mais il affirme ensuite qu'il ne fera jamais plus la même erreur. On voit le contraste entre quelqu'un qui parle en termes presque de mantra, par autosuggestion, ou qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est pas ça qui est vraiment important. Mais un contraste avec une foi qui, c'est vrai, chemine, a besoin de poser des questions, a des doutes, des questionnements, mais qui s'ancre de plus en plus dans les paroles de Jésus, qui s'affermit petit à petit. Et c'est peut-être votre cas ce soir. Si vous êtes là, vous avez peut-être de ces petites secousses, de ces petits tremblements de terre, ou soit ce que dit Jésus à cet endroit ou dans un autre endroit de la Bible vous interpelle, vous questionne. Il y a peut-être aussi des situations, des circonstances qui vous font douter de la réalité de son existence, de son omniscience, de sa souveraineté. Et si c'était l'occasion, comme pour les disciples, de mettre en évidence ces petites perles. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Il n'a peut-être pas tout saisi, Pierre, à ce moment-là, mais il a saisi l'essentiel et il va continuer à construire sur cette foi. Jésus n'a pas peur de la dispersion des douze parce qu'il sait que ces moments, ces petits tremblements de terre, sont l'occasion pour ses disciples d'affermir leur foi. Je termine rapidement avec la dernière raison, la deuxième raison. Versets 70 et 71, raison pour laquelle Jésus n'a pas peur de la dispersion des gens en face de lui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Pourtant, l'un d'entre vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des douze. Jésus n'a pas peur de la dispersion des disciples parce qu'il sait déjà qui va le livrer, qui va le trahir. Pourquoi est-ce que Jésus mentionne le cas de Judas ici? Pourquoi est-ce que Jean nous le relate ici, avant les faits? N'est-ce pas parce que le fait d'en parler ici va permettre par la suite aux disciples de se souvenir que Jésus n'a pas vécu un accident de parcours lorsqu'il a été emmené, lorsqu'il a été crucifié? Ces paroles qu'il donne là et qui nous sont retranscrites sont l'occasion par la suite pour les disciples de réaliser qu'il savait déjà et qu'il contrôlait déjà la situation. C'est lui-même qui a choisi Judas comme un de ses disciples. Et il nous invite, en l'affirmant, à avoir confiance en lui. Même le plus gros tremblement de terre, même la plus grosse surprise, l'un d'entre eux, quelqu'un qui a mangé avec eux, quelqu'un à qui il a lavé les pieds, quelqu'un qui était là avec eux pendant tout son ministère, qui le trahit pour quelques pièces d'argent. Le fait de l'annoncer à l'avance dit qu'il est digne de confiance. Il est digne d'être cru. Jésus n'a pas peur de la dispersion de ses disciples, d'une part parce qu'il connaît les cœurs de ceux à qui il a affaire. Ensuite, parce qu'il sait que c'est l'Esprit qui fait vivre, parce qu'il sait que c'est le Père qui attire à lui. Il n'a pas peur de la dispersion de ses disciples, parce qu'il sait que ces petits tremblements de terre vont révéler la foi de ses disciples, leur permettre de la mettre en mots. Et même le revirement le plus incompréhensible, il le sait à l'avance. Et il reste souverain. Et le fait de savoir cela, ça devrait nous donner la confiance en lui. Je vous invite à prier. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Notre Père, nous te prions que nous puissions goûter à ces paroles, nous en nourrir, les intégrer, que cette foi en Jésus puisse grandir à travers ces circonstances, à travers ces mises à l'épreuve, pour que la personne de Jésus, son œuvre, la grandeur de son œuvre, soit de plus en plus réelle pour nous. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.